Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis votre animateur et aujourd'hui on va s'attaquer à une véritable illusion du quotidien.
Salut tout le monde! Et de mon côté, je mets ma casquette d'experte pour vous guider dans les méandres juridiques de ce sujet assez fascinant.
Et ouais, parce que, on a tous connu cette situation, hein. Vous savez, l'avion va décoller ou alors le train s'apprête à entrer dans un long tunnel sans réseau.
Le fameux moment de panique.
C'est ça. Et là, on appuie frénétiquement sur ce petit bouton télécharger de notre application de streaming musical ou vidéo. On regarde la barre de progression se remplir et on souffle un grand coup.
Ouais, on se dit, c'est bon, j'ai mes films, j'ai ma musique, je suis paré pour le voyage.
Exactement. C'est un vrai sentiment de sécurité. On a vraiment l'impression d'avoir sécurisé son propre contenu, de l'avoir mis dans sa poche, quoi.
Sauf que, d'un point de vue purement légal, on possède absolument rien. C'est terrible à dire.
Mais c'est fou, ça. Cette sensation de propriété, c'est juste une gigantesque illusion, en fait.
Totalement. Et c'est là que ça devient fou. Ce simple petit bouton qu'on utilise tous les jours, il vient de déclencher une guerre à plusieurs millions d'euros devant la justice européenne.
Ah ouais, carrément. Eh bien, notre mission aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment cette fonctionnalité ultra banale de lecture hors ligne a complètement ébranlé un vieux concept juridique qu'on appelle la copie privée.
Ouais, et comment, au final, le concept d'accès a définitivement remplacé la possession numérique.
Alors pour ça, on va s'appuyer sur deux documents particulièrement éclairants. D'abord, un arrêt très attendu de la Cour de justice de l'Union européenne, la fameuse CJUE, un arrêt qui date du 16 avril 2026.
C'est l'affaire C49624, pour être précise.
C'est bien ça. Et ensuite, on va utiliser l'analyse hyper pointue de cet arrêt qui a été publié en mai 2026 par l'avocate Marine Bantoumi du cabinet Nomos.
Une analyse qui décortique vraiment bien les enjeux techniques derrière tout ça.
Bon, décortiquons tout ça pour comprendre ce qui a mis le feu aux poudres. Le théâtre de ce drame juridique, ce sont les Pays-Bas.
Tout à fait, on part aux Pays-Bas.
D'un côté, on a la SONT et la SDT. Ce sont en gros les fondations néerlandaises qui sont chargées par l'État de collecter les redevances pour la copie privée. Et de l'autre côté, on a des géants de l'informatique, les fabricants HP et Dell.
Et on parle pas de petites sommes, hein. L'enjeu se chiffre en millions d'euros chaque année.
Ah oui, c'est énorme. Mais avant de rentrer dans le conflit, il faut peut-être qu'on rappelle le principe de base de cette fameuse exception de copie privée, non ?
Ouais, c'est essentiel. En fait, le droit d'auteur confère normalement à un créateur le monopole absolu sur la reproduction de son œuvre. C'est son droit exclusif.
D'accord, donc personne d'autre n'a le droit de copier sans son accord.
Exactement. Mais le législateur a très tôt compris qu'on ne pouvait pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour l'empêcher d'enregistrer une émission à la télé ou de copier un disque pour sa voiture.
Bah oui, ça serait ingérable.
Donc la loi a créé une tolérance. C'est ça l'exception. La copie à usage strictement privé est autorisée. Mais attention, en échange de cette tolérance, pour compenser le manque à gagner des artistes, on applique une taxe préventive.
Ah, la fameuse taxe sur les supports vierges.
Voilà, on la paye à l'achat des disques durs, des smartphones, des ordinateurs, etc. Cet argent est ensuite redistribué aux créateurs.
Ce qui nous amène directement au cœur de notre bataille aux Pays-Bas, la SART et la CDVI, elles regardent les ordinateurs vendus par HP et Dell. Des machines avec des immenses disques durs de plusieurs téraoctets.
Et elles se disent qu'il y a un truc à gratter.
Bah oui, elles font un constat hyper simple. Elles disent aux fabricants « Regardez l'usage réel de vos machines. Les gens remplissent ces disques avec des gigaoctets de films Netflix téléchargés, des milliers de morceaux Spotify stockés pour le hors-ligne. »
Ce qui est vrai dans les faits, on fait tout ça.
C'est du stockage massif d'œuvres protégées, donc pour ces fondations, c'est de la copie privée. Et du coup, HP et Dell doivent payer la taxe correspondante sur ces capacités de stockage.
La logique semble implacable en apparence. Il y a bien des données qui atterrissent sur un support physique après tout.
Ouais. Sauf que les fabricants, Dell et HP en tête, refusent net. Pas question de payer.
Et on les comprend. Ils soutiennent que le stockage temporaire généré par une application de streaming n'a juridiquement rien à voir avec une copie privée classique. C'est pas la même chose pour eux.
Le désaccord est tellement profond que l'affaire est montée jusqu'à la Cour suprême des Pays-Bas. Et là, impasse totale. Ils ont dû geler la procédure pour poser la question directement à la plus haute juridiction du continent, la CJUE.
Parce qu'il fallait trancher cette question fondamentale, est-ce qu'un téléchargement temporaire, c'est une copie ?
Alors, pour bien saisir l'attention ici, j'aimerais qu'on remonte un instant dans les années 90.
Oh là, séquence nostalgie.
Ouais. À l'époque, on écoutait la radio avec le doigt suspendu au-dessus du bouton enregistré du lecteur cassette. Dès que notre chanson passait, paf, on appuyait.
Ah oui, avec la voix de l'animateur radio qui gâchait toujours la fin du morceau.
C'est tellement ça. Mais techniquement, on crée une copie physique sur bande magnétique pour l'écouter plus tard. Or, l'intention de l'utilisateur des années 90 avec sa cassette et celle de l'utilisateur d'aujourd'hui avec son bouton téléchargé sur son appli, c'est fondamentalement la même, non ?
L'intention est la même, oui.
C'est garder l'œuvre ou pour en profiter hors connexion. Alors, comment la loi peut-elle traiter ces deux gestes si différemment ?
C'est là que le droit européen intervient, avec la fameuse directive 2001/29/CE. Elle impose de séparer complètement l'intention de l'utilisateur de la réalité technique de l'opération.
D'accord. Donc l'intention, on s'en fiche un peu, en fait.
En gros, oui. Cette directive est construite sur une dichotomie très stricte. D'un côté, elle définit le droit de reproduction, régi par l'article 2. De l'autre, elle définit le droit de communication d'œuvres au public, à l'article 3.
Attendez, reproduction contre communication ?
Exactement. Et c'est crucial parce que l'exception de copie privée, celle qui justifie la taxe, ne s'applique qu'à une reproduction au sens de l'article 2. Jamais à une communication.
Ah ! Donc le grand défi de la CJUE, c'était de déterminer dans quelle case on range le téléchargement en streaming.
Voilà. Et son analyse commence par observer la nature même du service de streaming. Le modèle économique d'une plateforme, c'est d'offrir un catalogue immense à un ensemble d'abonnés.
Des abonnés qui peuvent accéder à ce qu'ils veulent, quand et où ils le souhaitent.
C'est ça. Et pour la Cour, cette opération globale, ça s'appelle une mise à la disposition du public. Ça tombe donc directement sous le coup de l'article 3, la communication.
Mais pourquoi ? C'est juste moi qui écoute dans mon coin pourtant.
Eh bien, pour justifier ça, la Cour s'appuie sur un concept juridique très précis qu'on appelle le seuil de minimis.
Le seuil de minimis, c'est-à-dire c'est la taille minimale de l'audience, un truc comme ça ?
C'est le critère clé pour définir ce qu'est un public en droit. Pour qu'il y ait une communication au public, il faut que l'audience visée dépasse un seuil insignifiant, un seuil de minimis.
Ok, je vois. Mais les plateformes, elles pourraient très bien dire que quand j'écoute mon morceau en mode hors ligne tout seul dans le métro, c'est une transmission purement individuelle. C'est du circuit fermé, non ?
Elle pourrait, ouais. Mais la CJUE rejette complètement cette vision fragmentée. Elle regarde pas l'utilisateur isolé dans son métro, elle regarde la globalité des abonnés de la plateforme.
Ah, elle prend le truc dans son ensemble.
Exactement. Même si les accès sont décalés dans le temps, via le mode hors ligne, le nombre total de personnes qui ont potentiellement accès à ce catalogue est gigantesque.
Ah oui, on parle de millions de personnes.
Voilà. Donc, on dépasse très largement le seuil de minimis. L'acte global reste une communication au public. Fin de l'histoire pour l'article 3.
Ok, mais attendez, je suis pas d'accord là. Il y a un problème de physique de base dans ce raisonnement.
Je vous écoute.
Je veux bien que le service global soit une communication. Mais quand l'application télécharge la saison entière d'une série pour mon vol, elle écrit des vrais blocs de données sur la mémoire flash de mon iPad.
Ouais, ça prend de la place, c'est sûr.
Bah oui, ça consomme des gigas d'espace, ça mobilise des composants matériels dans l'appareil. L'acte de communication initial, il se matérialise bien par une reproduction physique et locale normalement. La Cour peut pas juste ignorer l'existence de ces fichiers sur le disque dur.
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que la Cour a parfaitement anticipé cette objection matérielle.
Ah, ils ont pensé au disque dur quand même.
Ouais, ils sont pas dupes. Elle admet tout à fait qu'il y a un processus de stockage de données, une matérialisation technique sur le disque.
Bon, alors la SANT et la SADT ont gagné.
Eh bien non. Parce qu'elle précise que même si on qualifie ce stockage technique d'acte de reproduction, sous l'article 2, la bataille est loin d'être gagnée pour les organismes de collecte.
Mais pourquoi ? Si c'est une reproduction, l'exception de copie privée devrait s'appliquer, non ?
Parce que cette fameuse exception de copie privée, elle exige des conditions draconiennes. Elles sont détaillées à l'article 5, paragraphe 2, sous B. Et la Cour conclut que l'architecture logicielle même des applications de streaming rend ces conditions impossibles à remplir.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on quitte le terrain de la théorie juridique pour plonger directement dans l'architecture système de nos téléphones et ordinateurs.
On met les mains dans le cambouis.
Ouais.
La Cour est carrément allée fouiller dans la façon dont le code interagit avec le matériel pour démonter cette illusion de propriété. C'est fou!
Le jugement détaille la mécanique informatique avec une précision incroyable. En fait, l'utilisateur qui appuie sur télécharger croit lancer une simple copie de fichier, un peu comme à l'époque où on glissait un MP3 dans un dossier sur son bureau.
Ouais, on faisait tous des copier-coller de nos MP3. Hein. Sauf qu'en réalité, c'est pas de tout ça. Le système d'exploitation du téléphone, que ce soit iOS ou Android, il crée ce qu'on appelle un environnement bac à sable, un sandbox en anglais.
Un bac à sable.
C'est-à-dire une zone complètement fermée.
Exactement. C'est une zone de mémoire totalement isolée du reste du système. Et le fournisseur de streaming, quand il télécharge le contenu, il n'y dépose pas un fichier multimédia classique que vous pouvez lire avec n'importe quel lecteur.
Il dépose quoi alors ?
Il y dépose un ensemble de fragments de données lourdement chiffrés, totalement illisibles en dehors de l'application elle-même.
Ah ouais ! On n'est donc plus du tout dans le cas de figure de notre bonne vieille cassette radio. Avec la cassette, on avait un vrai support physique. On pouvait la sortir de l'autoradio, la donner à un pote, la lire sur un autre poste.
Voilà, vous aviez la maîtrise du support. Là, c'est impossible. Du coup, l'analogie qui s'impose aujourd'hui, c'est plutôt celle de la voiture autonome de location.
Ah, j'aime bien cette comparaison.
Bah, imaginez. On s'assoit sur le siège passager, on sélectionne une destination sur le petit écran et on a l'illusion de conduire parce que la voiture avance. On se sent maître à bord.
Alors qu'en réalité ?
En réalité, l'entreprise de location, elle gère la puissance du moteur à distance, elle verrouille les portes de l'extérieur, elle décide de l'itinéraire qui est calculé par ses propres serveurs. Et surtout, elle a un gros bouton d'arrêt d'urgence. Elle peut éteindre le véhicule à la seconde où notre carte bleue passe plus.
C'est exactement ça. On ne possède ni le trajet, ni la voiture. On subit une expérience qui est hautement contrôlée de bout en bout.
On n'est qu'un passager captif au final.
Et la traduction juridique de cette image du passager captif, on la trouve à l'article 6 de la directive. Le législateur appelle ça des mesures techniques de protection.
Les fameux verrous numériques, les DRM.
C'est ça. Et l'analyse de Marine Bantoumi du cabinet Nomos met un point d'honneur à souligner cette asymétrie de pouvoir. C'est très important.
Pourquoi c'est si important pour le jugement NOE ?
Parce que pour que l'exception de copie privée s'applique légalement, la loi dit qu'il faut que la copie soit réalisée par la personne physique elle-même, de sa propre initiative, et surtout elle doit exercer une forme de maîtrise sur la source.
Ah !
Or, dans le cas du streaming, ma maîtrise est proche du néant.
Elle est nulle, tout simplement. L'utilisateur ne peut pas extraire le fichier chiffré de ce bac à sable, il ne peut pas le sauvegarder sur un cloud personnel et encore moins le mettre sur une clé USB pour un ami. L'application, c'est un peu un coffre-fort dont on n'aurait pas la combinaison. Et le plus frappant, je trouve, c'est que ce fichier qu'on a téléchargé, il a une durée de vie super conditionnelle.
Totalement, c'est du contenu éphémère.
Si on annule notre abonnement mensuel, ou si Netflix ou Spotify perdent les droits de diffusion d'une œuvre, eh ben la prochaine fois que le téléphone se connecte au Wi-Fi, l'application reçoit une petite requête silencieuse en arrière-plan, et paf, le fichier est instantanément détruit de notre mémoire locale.
Sans même vous demander votre avis. L'application agit comme un agent autonome sur votre propre appareil. Le fournisseur ne fait que prêter un accès conditionnel et temporaire.
Un accès qui est juste mis en cache localement pour éviter les coupures dans le tunnel, en gros.
C'est exactement ça. La conclusion de la CGUE est donc sans appel. Puisqu'il n'y a aucune maîtrise réelle, ni technique ni juridique, de la part d'utilisateur, on ne peut pas qualifier cet acte de copie réalisée par une personne physique.
C'est l'application qui fait le travail, pas moi.
Voilà, l'exception de copie privée est donc rejetée en bloc par la Cour.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie financièrement pour notre litige initial ? Parce que bon, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre ici.
C'est même le cœur du problème.
Même si on admet que techniquement, la plateforme contrôle tout via son fameux bac à sable verrouillé, il reste un fait incontestable. Des téraoctets de musique et de films sont consommés tous les jours sur les appareils de HP et Dell.
L'œuvre est bien exploitée et consommée, on est d'accord ?
Bah oui. Alors pourquoi cette espèce d'hyper-surveillance logicielle viendrait-elle annuler le droit des artistes à toucher une redevance sur le matériel qui permet concrètement cette écoute ?
La réponse à cette question se trouve dans la troisième question préjudicielle traitée par la Cour. Et c'est là que l'analyse de Nomos prend toute sa dimension, je trouve.
Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus ?
En fait, il faut repenser la philosophie même de cette taxe. La redevance pour copie privée n'a jamais été pensée comme une espèce de subvention culturelle générale ou une taxe d'exploitation aveugle.
Ah bon ? C'est quoi alors ?
C'est un mécanisme d'indemnisation très strict. Il est conçu uniquement pour réparer un préjudice.
Un préjudice ? Un préjudice lié à la perte de contrôle de l'œuvre, j'imagine.
C'est ça. Pensez aux types de pertes de contrôle que subissait un artiste à l'époque de la cassette audio.
Ouais. Le fameux doigt sur le bouton enregistré.
Voilà. Une fois l'émission de radio enregistrée par l'auditeur sur sa bande, l'auteur perdait totalement la trace de son œuvre.
C'est vrai que la cassette, elle partait dans la nature. Elle pouvait être écoutée des centaines de fois dans des foyers différents, copiée de lecteur en lecteur.
Et tout ça, démultiplié à l'infini, sans que la chaîne de valeur officielle ne capte le moindre centime supplémentaire. C'était une vraie perte sèche.
Un trou noir financier pour les ayants droit, en fait.
Exactement. La redevance sur les cassettes vierges venait donc indemniser ce trou noir de l'exploitation. Cette hémorragie financière due à la démultiplication incontrôlable du support.
D'accord.
Mais si l'on relie cela au contexte global de l'économie du streaming d'aujourd'hui, le paradigme s'est totalement inversé.
Ah bah, c'est sûr que dans le modèle du streaming, le trou noir n'existe plus du tout. Chaque écoute, même celle qui est faite en hors ligne, au fond du métro, sans aucun réseau, elle finit par être comptabilisée et monétisée.
Le traçage est absolu. Les plateformes de streaming signent des contrats de licences monumentaux avec les ayants droit, les maisons de disques, les studios.
Des contrats hyper verrouillés.
Et ces accords commerciaux, ils prévoient déjà, de manière ultra explicite et chiffrée, l'exploitation de l'œuvre via la fonctionnalité de lecture hors ligne. C'est inclus dans le prix.
Ah, donc ils sont déjà payés pour ça?
Oui. De plus, grâce au verrou numérique qu'on a décrit tout à l'heure, les artistes et les ayants droit conservent la maîtrise totale de la chaîne de distribution.
Parce que l'application enregistre tout en douce, c'est ça?
De la plateforme, garde des logs d'écoute très précis en local. Et dès que votre téléphone retrouve une connexion Internet, paf, il synchronise toutes ces données avec les serveurs centraux.
Ce qui permet de rémunérer très précisément les ayants droit, au centime près, selon les conditions de leur contrat.
Les ayants droit gardent vraiment le doigt sur l'interrupteur du début à la fin de l'expérience. Ils ne subissent donc plus l'hémorragie de la cassette.
Il n'y a plus de préjudice, en fait.
Et ça, la directive l'a prévu. C'est à l'article 5, paragraphe 5. L'application d'une exception au droit d'auteur ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts du créateur.
Logique.
La CGUE observe simplement la réalité des faits. L'œuvre est exploitée dans un cadre contractuel lourdement monétisé, l'accès est techniquement restreint et chaque écoute est scrupuleusement mesurée.
Donc aucune perte de contrôle non compensée.
Par conséquent, aucun préjudice à réparer.
Ce qui rend la demande de la SONTE, de la CDT, complètement caduque du coup. Imposer à Dell et HP de payer une taxe sur la copie privée pour le streaming hors ligne, ce serait carrément instituer une double facturation massive.
Ce serait payer deux fois pour la même chose, oui.
Les créateurs seraient rémunérés une première fois par nos abonnements mensuels via les accords de licence signés par la plateforme. Et ils toucheraient une deuxième rémunération totalement déconnectée de la réalité sous la forme d'une taxe sur notre matériel informatique.
Une taxe qui, on le rappelle, est toujours silencieusement répercutée sur le prix de vente en magasin.
Ben oui, c'est le consommateur qui paye la facture à la fin quand il achète son prochain ordinateur.
C'est pour ça que la Cour protège ici la cohérence économique du marché numérique en refusant d'étendre la définition de la copie privée au stockage temporaire du streaming. Elle évite une surtaxation des fabricants d'équipements.
Tout en validant le modèle de contrôle absolu des plateformes, bien sûr.
Oui, le droit s'aligne finalement sur la stricte réalité technique du marché actuel.
C'est un alignement qui révèle une ironie quand même assez mordante, je trouve. Cette fonctionnalité providentielle de lecture hors ligne, qu'on chérissait tant, qu'on voyait un peu comme notre dernière forteresse d'indépendance numérique.
Notre petit jardin secret musical.
C'est ça. Bah, en fait, c'est qu'une vulgaire extension du réseau. Juridiquement, on n'a pas de bibliothèque personnelle. C'est juste un cache-mémoire délocalisé, sous haute surveillance, hyper crypté et parfaitement jetable.
L'arrêt C49-687 de la Cour de justice acte très officiellement le décès de la possession numérique de la culture.
C'est triste dit comme ça, mais c'est vrai, le modèle de l'accès conditionnel a définitivement vaincu.
L'ère de l'appropriation matérielle d'une œuvre par le public est complètement révolue. La copie privée telle qu'elle a été pensée au XXe siècle pour les cassettes ou les VHS, ça devient une relique juridique.
Un truc de musée.
Voilà. C'est applicable uniquement à des usages de niche, tandis que l'écrasante majorité de notre consommation culturelle passe désormais par ces flux, sous contrôle algorithmique continu.
Et ce glissement vers le tout accès soulève une réflexion finale, assez vertigineuse pour clore notre épisode. Notre exploration, pardon.
Je vous écoute.
On vient de démontrer comment la justice et la technique s'allient pour donner aux plateformes un droit de vie et de mort sur les fichiers qui sont hébergés dans nos propres appareils.
Oui, elles ont le bouton rouge.
Alors, si l'intégralité de la musique qui rythme nos vies, si les films cultes de notre adolescence, si les livres audio qu'on écoute le soir ne sont plus que des flux cryptés, dont la clé de déchiffrement est conservée bien au chaud sur des serveurs en Californie ou en Suède.
Où voulez-vous en venir, Sam ?
Que se passera-t-il le jour où la rentabilité de ces plateformes s'effondrera ?
Ou alors le jour où, suite à une simple dispute bête sur le renouvellement d'un droit de diffusion entre un studio et Spotify, des catalogues entiers seront rayés de la carte en une nuit.
C'est un scénario tout à fait plausible. Ça arrive déjà par bribes.
Ces immenses bibliothèques hors ligne, qu'on pensait gravées dans la mémoire de nos téléphones, elles s'évaporeront à la seconde exacte où l'appareil se connectera au réseau pour synchroniser ses droits d'accès. Vite, disparu.
C'est le revers de la médaille du cloud et du streaming.
On risque fort de basculer dans une époque d'amnésie culturelle programmée. Une époque où la constitution d'archives personnelles et surtout la transmission de nos découvertes à la génération suivante seront devenues techniquement impossibles.
C'est une pensée assez glaçante pour terminer.
Ouais. La prochaine fois qu'on appuie sur ce fameux bouton télécharger avant le décollage de l'avion, il faudra juste garder à l'esprit qu'on ne retuit pas vraiment une valise pour le voyage. On tient juste le bout d'une laisse numérique qui est extrêmement fragile. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour une nouvelle plongée.